Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on reçoit ce matin Naomi Klein. Naomi Klein, on vous rencontre rarement, tous les 5-7 ans à peu près. Quand vous décidez d'écrire un livre, vous y mettez le temps. Il y a eu No Logo au tout début des années 2000. Et puis il y a eu la stratégie du choc, c'était vers 2005, 2006, 2007. Et puis voilà, tout peut changer. Capitalisme et changement climatique en 2015. Des livres qui sont à chaque fois extrêmement fouillés, travaillés. J'ai été impressionnée de voir la façon dont vous avez travaillé sur celui-ci, avec toute une équipe. C'est véritablement un travail de recherche universitaire, pourrait-on dire, avant d'être un travail d'écriture. En même temps, c'est un livre qui est traversé par la vie. La vie bourgeonnante, un bébé à venir et puis un bébé venu. La vie qui s'étiole autour de vous, qui commence à, dont vous voyez les traces de la disparition. Un livre qui sonne comme un signal d'alarme, l'urgence, l'importance de réagir vite. Et d'abord cette question, comment se fait-il qu'alors qu'aujourd'hui, nous savons tant de choses, nous ne bougeons toujours pas?
Nous vivons avec cette dissonance cognitive quasiment insupportable qui fait que les alertes que l'on entend, qui sont lancées par la communauté scientifique, et pas simplement d'ailleurs par la communauté scientifique, puisqu'il y a parfois des organisations qui ont vraiment pignon sur rue, des institutions comme la Banque mondiale, qui nous disent que nous allons littéralement à la catastrophe. Et pourtant, non seulement nous ne faisons pas ce que l'on devrait faire, mais je dirais même qu'on s'emploie activement à faire exactement le contraire. Une véritable frénésie autour de l'extraction des combustibles fossiles. On s'emploie à essayer d'extraire les gisements les plus dangereux. Au Canada, par exemple, mon pays, eh bien, on est en train d'extraire les sables bitumineux de l'Alberta à un rythme frénétique avec des entreprises comme Total qui nous aident. On fait également de la fracturation hydraulique pour aller extraire ces sables bitumineux. Et si c'est tellement dangereux, ces énergies assez extrêmes, eh bien, ce n'est pas simplement à cause des dommages qui vont se faire sur place. Vous savez qu'il n'est pas liquide, ce sable bitumineux. Donc, il faut creuser assez profond. Enfin, tout d'abord, il faut commencer par raser la forêt. Ensuite, il faut aller creuser. Et après, on va procéder à l'extraction. On va extraire donc ce sable. Ensuite, il faut le faire bouillir avec des produits chimiques, d'ailleurs. Et ceci crée une pollution environnementale considérable au niveau local, mais au passage, cela brûle trois fois plus de carbone pour produire un baril de brut que si on avait du brut conventionnel. Et l'énergie qui est utilisée pour ça au Canada, ça provient précisément d'une fracturation hydraulique qui est utilisée pour extraire le gaz naturel, autre forme très dangereuse d'extraction de ressources minières. Et c'est un processus qui crée des fuites de méthane considérables. Rappelons que le méthane contribue fortement à l'effet de serre. Tout ceci pour dire que non seulement on ne fait pas ce qu'il y a à faire, mais on va droit au suicide. Et si ça se passe ainsi, c'est peut-être parce que le prix du pétrole est tellement élevé ces 10 dernières années. Je dirais que le prix, justement, est irrésistible. La possibilité de créer du profit est littéralement irrésistible.
En même temps, les réunions pour discuter du climat et de l'urgence et de l'importance de faire quelque chose pour arrêter ce réchauffement climatique, ces réunions se succèdent sans arrêt. Il y en a une très importante qui va se tenir à Paris fin 2015 et on en parle en permanence. Donc Naomi Klein, nous sommes schizophrènes.
Well, basically, yeah. I mean, I think we are, and we see it really clearly with the French
government. On le voit bien d'ailleurs avec le gouvernement français. Vous avez François Hollande, par exemple, qui se rend aux Philippines et qui, devant les caméras, va faire des prises de position très claires en disant qu'il ne va pas laisser tomber les victimes de catastrophes telles que le typhon Anne. Et la France va dire tout cela. Et puis, dans la coulisse, il passe des accords. Pour les entreprises multinationales françaises ou les entreprises également qui vont fabriquer des autoroutes sur place à Manille. Donc, non pas qu'ils soient, si vous voulez, seuls à agir ainsi. Je crois que tous les représentants politiques se disent que c'est la croissance économique à tout prix qui doit primer. Et on pense que notre système planétaire a besoin de quelque chose pour éviter cette déstabilisation qui va être une catastrophe pour nous en tant qu'humains, pas pour la Terre. Elle s'en remettra, elle récupérera, mais nous, l'humain et d'autres espèces également sont en danger. Or, ces systèmes, de quoi ont-ils besoin? Eh bien, ils ont surtout besoin d'une contraction de notre utilisation des ressources naturelles. Or, ces deux vérités sont tout à fait difficiles à concilier. C'est ce que je dis dans cet ouvrage, c'est que c'est particulièrement compliqué à gérer du fait de ce très mauvais calendrier, je dirais, d'un point de vue historique, c'est-à-dire que la crise économique s'est présentée à nous en tant que véritable problème politique au pire moment, en 1998. Or, n'oublions pas que 1998, c'était aussi l'année où nos gouvernements se sont réunis pour la première fois en vue de conclure un accord sur le changement climatique. C'est aussi l'année où a été créé le GIEC. Et puis, c'était aussi un an avant l'effondrement du mur de Berlin, un an avant le premier accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis qui allait devenir ensuite le standard ou la norme ensuite pour les accords de libre-échange qui pouvaient être conclus avec le Canada ou les États-Unis et l'Europe un peu plus tard. Et ces accords se sont multipliés et ceci va de pair avec un modèle économique qui est celui d'une déréglementation du capital.
Oui, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est une question de hasard, comme vous semblez le dire. Ce serait tombé au mauvais moment. Mais de fait, une des articulations que vous faites dans le livre et qui me paraît extrêmement importante, c'est de mettre en parallèle et de considérer l'évolution de ces deux transformations de notre cadre de vie, la transformation du climat et cette prise de conscience progressive et en même temps effectivement assez rapide de ce qui se passait sur le plan climatique avec toutes ces conventions qui se sont mises sur pied, tous ces accords qui ont été négociés, signés, et en parallèle, et vous appelez ça de solitude, en parallèle, la prolifération, comme vous dites Naomi Klein, de tous ces accords commerciaux qui étaient en train de transformer la donne pour l'ensemble de la planète.
Yes, and those deals, those free trade deals,
et ces accords de libre-échange, eh bien, ils représentaient quelque chose. Donc, c'est pas simplement ce qui est écrit sur ces textes, mais ils entraînent aussi et représentent la codification d'un certain projet idéologique qu'on appelle parfois en France ou en français la pensée unique, à savoir le néolibéralisme, qui dit que le gouvernement doit laisser la place et le champ libre aux multinationales et leur créer des marchés autant que possible, quitte à privatiser les actifs publics, quitte à déréglementer afin de permettre toute une série de fusions, faciliter également le transfert transfrontalier des capitaux. On permet également la mise en place et le bon fonctionnement des multinationales dans le pays. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un lien direct entre ces politiques et notre impossibilité à régler la crise climatique et le renforcement et l'aggravement de cette crise, d'autre part. Donc, très concrètement, si la réglementation devient le mot qui fâche, comment est-ce qu'on va régler le problème des émissions de carbone qui est au cœur même de notre économie moderne? Le cap- capitalisme moderne a été fondé littéralement sur les combustibles fossiles. C'est dans le charbon que nous avons inscrit notre histoire, si j'ose dire. Et si, je dirais que le moteur à vapeur a été découvert l'année où inventé l'année où Adam Smith écrivait La richesse des nations. Donc ce sont deux choses qui vont de pair, indissociablement. Et si on ne peut pas réglementer sur un problème comme celui-là, on perd son temps, et c'est ce que nous avons fait. Et malheureusement, une bonne partie du mouvement écologiste a été beaucoup trop timoré, trop timide, n'a pas voulu se confronter au problème du néolibéralisme, de sorte que les solutions proposées, elles étaient fondées en fait sur le marché. Au lieu de dire aux entreprises, vous ne pouvez pas utiliser ce carbone, nous allons limiter les émissions, nous allons pas vous permettre de dépasser certains plafonnements, nous allons créer des pénalités. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un marché autour de ça. On disait que ça serait un marché gagnant-gagnant. Mais quand on voit l'historique de tout cela maintenant avec un peu de recul, on voit que c'est une catastrophe. Il y a aussi privatisation qui s'est faite, parce que ces années où on était censé travailler sur le règlement de cette crise climatique, eh bien, les gouvernements, dans le même temps, ont commencé à brader les parties de notre économie qui se fondaient précisément sur les combustibles fossiles, les trains, les avions, tout ce genre de services, de sorte que ça a été encore plus compliqué de faire face à ces défis. Voyez par exemple l'Allemagne, qui est en pleine transition énergétique, c'est un des pays vraiment au cœur de cette transition. Mais ce dont on ne parle pas quand on parle de l'Allemagne, c'est que dans le contexte de cette transition, des centaines de municipalités ont décidé qu'elles devaient reprendre la maîtrise de leur réseau énergétique, et Dieu merci pour eux, ils ont un système en Allemagne qui permet aux citoyens de prendre part à un vote pour s'exprimer. En tout cas, chez moi, il n'y a pas ça. D'ailleurs, on est très jaloux de ce système allemand. Tout ceci pour dire que lorsque les gens sont motivés par le profit et que ceci, en fait, est au cœur de notre politique énergétique, cela, évidemment, empêche la mise en place d'une véritable transition. Raison pour laquelle certaines villes allemandes, comme Hambourg, ont décidé de reprendre la maîtrise. Sauf que il y a des accords de libre-échange qui font que les pouvoirs publics ne peuvent pas légalement introduire des politiques climatiques intelligentes.
Non seulement effectivement ces accords de libre-échange, mais également pour le cas de l'Allemagne, ce qui est intéressant, Naomi Klein, c'est qu'il y a à la fois cette reconquête par les populations et par les villes de la maîtrise de leur réseau d'énergie, et ce qui effectivement a permis l'essor extraordinaire des énergies renouvelables en Allemagne. Vous citez également le cas du Danemark, mais là aussi on voit bien que la lutte n'est pas si simple, puisque dans le même temps l'Allemagne n'a pas du tout fait le même chemin par rapport au charbon, par exemple, puisque là, en l'occurrence, dans ce cas de reconquête dont vous parlez, il s'agissait aussi, et il s'agit surtout encore aujourd'hui, de sortir du nucléaire, ce qui est une volonté très fortement affirmée en Allemagne. Mais reste le charbon, et le charbon fait que, de fait, les émissions de l'Allemagne continuent à augmenter. Et puis au Danemark, où il y a eu en effet aussi tout ce mouvement, et on sait que le Danemark est particulièrement bien fourni en énergie éolienne, par exemple, eh bien, là aussi, des décisions politiques ont aujourd'hui inversé la tendance.
On peut dire sans aucun doute que les pays qui ont une tradition sociodémocrate plus forte ont souhaité peut-être davantage que les autres mettre en place des incitations pour encourager l'utilisation des renouvelables. Mais il n'empêche qu'elles restent soumises, ces États restent soumis néanmoins à la même logique d'une manière ou d'une autre, et ils n'ont pas dérogé à la règle absolue qui serait de ne pas dire non à ces secteurs. Par exemple, en Allemagne, on veut mettre en place des incitations, mais pour autant, on laisse le contrôle des émissions de carbone au système d'échange de quotas d'émissions. d'où une pression croissante en Allemagne de la part des mouvements sociaux qui veulent vraiment activement réduire l'utilisation de la lignite, l'extraction de la lignite dans le Rhineland. Mais je pense qu'il faut qu'on ait cette pression de ce mouvement social. La transition en Allemagne, au Danemark, comme vous le disiez, c'est une véritable, c'est un triomphe, un vrai succès des mouvements anti-nucléaires. Au Danemark, c'était un mouvement qui était très fort dans les années 80. Et c'est grâce à cela, d'ailleurs, qu'on a eu cette transition vers l'éolien au Danemark. Et aussi, d'ailleurs, cette vision de la manière dont on pourrait produire de l'énergie autrement, en ayant un contrôle des communautés, quelque chose de décentralisé. Il ne s'agissait pas de passer d'une espèce de grosse machine centralisée à une autre puissance, elle aussi centralisée, quoique différemment. Bien davantage, il s'agissait de passer, par exemple, de l'agriculture industrielle à une transition vers un autre type d'énergie, d'agriculture fondée sur la redistribution des terres, par exemple.
C'est ce qu'en France, les opposants à ce type de transition appellent avec ironie le retour à la bougie.
Bougie is...
Il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, dans cette association des énergies renouvelables avec l'âge de pierre, avec différentes versions. Soit on nous dit, ah, vous voulez qu'on aille vivre dans les cavernes, vous voulez qu'on on s'éclaire à la bougie. Moi, je peine à comprendre cet argument, parce que la vérité, c'est que les énergies renouvelables ont vraiment progressé considérablement. Ce n'est même plus aujourd'hui une énergie alternative, ce sont des énergies traditionnelles qui, depuis très, très, très longtemps, ont fourni de l'énergie de manière tout à fait fiable. Et en plus, on a trouvé encore le moyen d'améliorer cette fiabilité. Il n'empêche, c'est ce qu'on nous serine tout le temps, c'est une énergie qui n'est pas fiable. Alors, vous savez, lorsque le soleil cesse de briller, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On peut stocker parce qu'on a amélioré la qualité des batteries, mais non, le problème n'est pas là. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, la promesse du charbon, des combustibles fossiles, d'emblée, c'était une promesse de libération de l'homme vis-à-vis de la nature. Vous voyez, par exemple, toute la partie de recherche que j'ai faite pour ce travail, c'est lorsque j'ai lu en fait toute la littérature consacrée à l'arrivée du moteur à vapeur. Il a fallu 60 ans à l'époque pour que les industriels anglais puissent commercialiser ce moteur. Il n'arrêtait pas de poser des problèmes. On disait que c'était même moins fiable que la roue à aube, puisque on était constamment confrontés à des difficultés. Mais finalement, ce que l'on a trouvé comme argument pour faire passer l'intérêt de ce moteur, c'était de dire « cela va vous libérer ». Et c'était vraiment littéralement l'argumentaire de vente. On disait « vous serez désormais libre de décider quand vous prenez la mer. Vous ne serez plus soumis au vent, aux éléments. Inutile de réfléchir à des problèmes de géographie quand vous direz « où est-ce que je dois construire telle ou telle usine ?» Vous ne devrez plus vous dire « il faut être à proximité de rapides ou de cascades ou de chutes ». Peu importe, vous aurez maintenant la liberté de choisir. Alors, même si à ses débuts, le moteur à vapeur était peut-être moins intéressant et moins puissant que la roue à aube, eh bien, il y a eu cette promesse très intéressante qui a vraiment séduit tout le monde, qui était de dire, vous serez les maîtres, vous serez libres. Et je pense que ce qui est vraiment très inquiétant par rapport au changement climatique et aux énergies renouvelables, c'est que on dit, aussi longtemps que on a brûlé des combustibles fossiles, en fait, nous n'étions pas les maîtres à bord, puisque on était en train d'utiliser nos combustibles fossiles. Et l'idée qu'on nous a vendue qu'on était les maîtres de la situation, c'était du vent, si j'ose dire, parce qu'on se rend compte maintenant que nous sommes complètement dépassés par les forces de la nature qui sont actuellement en train d'être déchirées déchaînée à cause de ce changement climatique. Et on en revient maintenant à un véritable dialogue avec la nature. Donc on a un véritable dialogue qui relève d'une réflexion spirituelle, je dirais, qui amène les hommes, puisque ce sont le plus souvent les hommes qui prennent ces décisions, à réfléchir.
C'est vraiment le sentiment que l'on a, effectivement, Naomi Klein, je le partage totalement, et j'ai été frappée en lisant votre livre que vous citiez Bacon, Francis Bacon, et je me disais c'est extraordinaire parce que nous on a aussi notre Bacon, c'est Descartes, René Descartes qui dit exactement les mêmes choses, la phrase la plus célèbre c'est « se rendre comme maître et possesseur de la nature ». On est en effet dans ce tournant de la civilisation, alors pour quelles raisons ça s'est né de cette façon mystère? En revanche, on ne peut pas penser qu'il y a que du mystère dans la façon dont cette idéologie s'est répandue de nos jours, parce que si on pensait ça, d'abord, ce serait totalement désespérant. De fait, ce que vous montrez, Naomi Klein, c'est que cette idéologie s'est répandue également grâce à un combustible très important, l'argent.
Well, this idea, I mean, it's even more interesting when you think about
Descartes. C'est encore plus intéressant, effectivement, si on pense à Descartes, à cette idée de maîtrise. Bien sûr, c'est totalement effrayant, puisqu'on se dit, on n'est pas le patron. Hein. Est-ce qu'il y a une idée qui soit plus angoissante dans le monde? L'idée que cette classe des possédants soit effrayée à l'idée de perdre la maîtrise des choses. La science sociale sur le changement climatique renforce complètement cette idée. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, en Australie, qui montrent une ventilation de ceux qui sont contre le changement, la reconnaissance de l'existence du changement climatique. Il y a une bonne partie, hein, rappelons-le, de la population qui pense que cette notion de changement climatique n'est autre qu'une conspiration socialiste. Mais cette population qui n'y croit pas n'est pas également répartie dans les groupes ethniques et différentes tranches de population. Il se trouve que c'est une forte concentration que l'on constate chez des hommes blancs, relativement aisés, qui sont plutôt républicains, voire du parti qu'on appelle le Tea Party. Et c'est une, je dirais, un groupe de population qui croit très fort à la notion de hiérarchie, qui pense que le monde et l'organisation du monde est fondée sur un système hiérarchique. On se dit donc que ceux qui sont riches, eh bien, ils l'ont bien mérité. Ce sont ceux qui ont le plus travaillé, plus que les autres. Hein. Évidemment, on se sent gêné parce que nous oppose à ce moment-là les données scientifiques. Il y a ça, et puis il y a les faits bruts et indéniables que l'on connaît, à savoir que si l'on veut se maintenir à un réchauffement de 2 degrés, il faut que l'on maintienne environ 80% des réserves en combustible fossile dans les sols, selon d'ailleurs un article qui a été publié dans Nature il y a quelques mois. Et puis il y a aussi l'institut qui s'appelle Carbon Tracker Institute au Royaume-Uni qui est allé dans le même sens, qui a dit que deux tiers ou trois quarts, on n'est pas certain, mais en tout cas deux tiers ou trois quarts des ressources doivent être maintenues dans le sol. Ça représente des milliards et des milliards de combustibles fossiles qu'il faut laisser dans le sous-sol. Et il se trouve qu'en fait, ces ressources-là, ces gisements, ils ont déjà été pris en compte par les entreprises productrices d'énergie. Elles ont donc bien l'intention d'aller extraire tout ça. Et si les gouvernements ne s'y mettent pas sérieusement, en disant il n'est pas question de brûler ces ressources en carbone, évidemment, ça représente une perte, un manque à gagner très important pour ces entreprises, raison pour laquelle ils sont contre les résultats scientifiques et les vérités scientifiques et contre les associations écologiques, par tous les moyens. Donc je disais que le gouvernement écologiste a été confronté à un problème toutes ces années, c'est qu'en fait, ils ont été confrontés à différentes idées par rapport au changement climatique, le racisme, le féminisme, la lutte pour l'environnement, l'emploi, toutes ces idées, si vous voulez, sont fondées sur le fait que certains gagnent, d'autres perdent, mais par contre, par rapport au changement climatique, ça doit forcément faire l'unanimité. On est tous dans le même bateau, ce qui est vrai et inévitable. Nous sommes tous impactés, mais pas tous de la même manière. D'abord, plus on est pauvre, plus on va être impacté par un changement climatique, et d'autre part, plus on est riche, plus on a à perdre, en tout cas. Et c'est évident, si on met en place des actions qui sont essentielles aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique, hein, n'oublions pas qu'il faut prendre des mesures tellement importantes maintenant qu'il faut s'y mettre tout de suite. Souvenez-vous, si on avait pris les mesures dès le sommet de 1992, on aurait pu agir. On aurait pu réduire les émissions de 2 à 3 % par année de manière graduelle. Les entreprises auraient pu s'adapter, mais on ne l'a pas fait. On a augmenté les émissions de 60% entre-temps, de sorte que ces entreprises sont confrontées à un énorme choc et elles ne veulent pas en entendre parler.
Mais là, Naomi Klein, vous bousculez un autre paradigme qui est inhérent à notre façon de penser, d'agir, que vous évoquez seulement dans le livre, mais j'ai trouvé que c'était important, vous ne le développez pas. Le fait que dans les milieux, comment on va les appeler, réformistes, entre guillemets, ou réchauffistes, comme ça a été traduit, warmists, il y a cette volonté d'être toujours modéré, d'être conciliant, de chercher le compromis. Il y a cette incapacité à dire les choses de manière abrupte, comme le fait la droite. Et vous dites même que, finalement, la droite voit beaucoup plus clair que la gauche ou les environnementalistes ou ceux qui souhaitent passer à un autre système.
Tout d'abord, je dirais qu'il est important de reconnaître que le mouvement environnementaliste est assez diversifié. Il y a toujours eu des factions, certaines parties plus militantes, d'autres moins. Greenpeace, ce n'est pas le WWF. Or, il se trouve que nous avons maintenant de plus en plus un mouvement qu'on appelle le mouvement de justice climatique, on l'appelle ainsi en Amérique du Nord, et il s'agit de gens qui sont très directement ou plus directement impactés par l'extraction des combustibles fossiles parce qu'il y a par exemple des raffineries à proximité de chez eux ou qu'il y a des autoroutes qui se construisent dans leur quartier. Les enfants développent de l'asthme plus qu'ailleurs, et c'est vrai également en France, par exemple, où il y a un lien très net entre la pauvreté et l'exposition aux impacts les plus directs de la combustion des fossiles. Et chez moi, dans mon pays, ce sont les Indiens autochtones qui sont le plus impactés par le fracking et par l'extraction des sables bitumineux. On a donc ce mouvement qui sait très bien qui sont les ennemis. On sait très bien qu'on n'est pas tous dans le même bateau exactement. C'est en fait une guerre que l'on doit mener contre les entreprises qui utilisent des combustibles fossiles à proximité de chez eux. Mais les groupes écologiques, notamment ceux qui existent depuis très longtemps, se sont créés sur un mouvement qui était un autre mouvement, plutôt celui de la conservation, je dirais. Il ne faut pas oublier que souvent c'est un mouvement des élites, hein, un mouvement de gentlemen, c'est même parfois des monarques. Ce n'est pas un hasard si le prince Charles défend fortement l'environnement. N'oublions pas non plus que le WWF a été créé par des monarques. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient des lieux où ils pourraient continuer d'aller chasser. Donc cette implication de leur part, elle provenait d'un intérêt. Donc effectivement, il y a ce modèle économique qui est tout à fait habituel et normal chez les monarques, mais c'était également l'occasion de maintenir des lieux où aller pêcher, où aller chasser, des lieux de loisirs en fait. Ça, c'est l'historique des groupes écologiques. Et ça a été très difficile pour ces groupes écologistes de pivoter, de s'adapter à cette nouvelle réalité. Le vrai problème, ce ne sont pas les écologistes en tant que tels. Le problème, c'est que tout un chacun est persuadé que ce problème pourrait être géré par un mouvement aussi restreint. Des gens, par exemple, qui se sont employés, et qui l'ont bien fait d'ailleurs, qui sont employés à préserver certaines parties du territoire au nom de quoi serait-il équipé ou bien adapté pour faire face à des réformes qui supposent, par exemple, une réforme du système capitaliste tout entier. Autant dire que cela requiert un mouvement social beaucoup plus vaste. Et je disais d'ailleurs dans cet ouvrage au début que moi-même, j'ai fermé les yeux sur ce problème de l'environnement pendant très longtemps. Et je passe en revue toutes ces petites histoires qu'on se raconte en disant « Ah, ben moi, je m'intéresse à des choses qui sont plus importantes, je m'intéresse à la pauvreté, moi, je me concentre sur des urgences au quotidien, bon, moi, le problème climatique, c'est trop passerelle, ce n'est pas de mon ressort. Hein. » Donc, j'étudie de près ces groupes écologistes. J'essaie de comprendre pourquoi, depuis si longtemps, ils n'ont pas osé se coltiner les pouvoirs en place. Et j'essaie de comprendre pourquoi tout un chacun essaie de continuer de croire que ce sont les mouvements écologistes qui vont pouvoir régler le problème.
Si, si, ça fait d'autant plus sens que ça rejoint une autre des notions fortes de notre époque, qui est assez triste à considérer, c'est ce sentiment d'impuissance généralisée, une impuissance doublée d'une forme de mépris des gens les uns pour les autres. On est dans des sociétés où les gens n'ont plus tant d'estime que ça les uns pour les autres. On pense que finalement, est-ce qu'on mérite vraiment d'être sauvé? Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que les autres seront capables de le faire? Surtout, est-ce qu'on sera capable de s'allier à d'autres?
C'est le triomphe du néolibéralisme. C'est ce que je dis. C'est ce triomphe qui nous a empêchés de faire face à cette crise. On a privatisé l'économie. On a déréglementé un certain nombre de secteurs économiques. Et le triomphe du néolibéralisme, il s'exprime en nous, dans nos âmes, dans nos corps, dans la structure de nos communautés ou l'absence de ces structures de vie ensemble. Et nous sommes confrontés à cette crise collective qui exige une coopération, une solidarité sans précédent. Et elle nous frappe au moment même où non seulement les institutions qui permettent l'action collective se trouvent justement en état de siège ou attaquées, je pense, notamment aux syndicats, mais en plus, nous-mêmes avons du mal à nous penser comme un acteur collectif. Lorsque je donne des entretiens, j'ai souvent cette question, on me dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Et je me dis, mais ça, c'est juste, c'est pas la bonne question à poser. On exprime le problème de cette façon-là, et ça en dit long. On a un problème qui est extrêmement global, et pour une raison que j'ignore, on s'imagine que tout seul, une personne toute seule dans son coin pourrait régler le problème. Alors, on devient végétarien, on change son mode de vie, ça ne marche pas, on est désespéré, on s'en prend aux autres. L'action individuelle, elle est utile, je pense, dans la mesure où elle va permettre de réduire la dissonance cognitive dans notre existence, et puis ça améliore notre état de santé et notre bien-être au passage, mais ce n'est pas adapter cette réponse individuelle par rapport à l'ampleur de la crise. Donc, ma réponse est toujours la même, mais vous ne pouvez rien faire tout seul. Il faut trouver des gens avec qui agir. On ne peut pas, évidemment, à soi tout seul, modifier des accords de libre-échange ou agir auprès des fonds de pension. Je me souviens, j'ai participé à une émission de la télévision française et le présentateur me demandait, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, en rentrant à la maison? Je dis, mais ce qui est important, c'est ce que vous faites ici. Bon, tu peux tout à fait faire brûler du charbon dans ta chaudière à la maison, mais il faut parler du changement climatique dans l'émission. C'est ça qui est important. Les messages que l'on reçoit de notre culture sont là pour nous dire qu'en fait, nous sommes un être égoïste, que nous sommes un consommateur compulsif. Donc, la seule antidote à ce regard, ça va être l'expérience. En d'autres termes, lorsque l'on rencontre rencontre des gens, qu'on commence à agir ensemble, on se rend compte qu'on est beaucoup plus que ce fameux consommateur compulsif. Et c'est cette expérience-là qui sera la meilleure formation pour mettre en place ces actions dont on a besoin maintenant.
Je voudrais quand même qu'on insiste sur un autre aspect qui est très important dans votre livre. Ce sont toutes les mesures, entre guillemets, qui sont prises, en effet, pour essayer d'atténuer le changement climatique sans entraver la course au profit commercial. C'est tout ce que vous avez rassemblé dans le chapitre que vous appelez « La pensée magique ». C'est-à-dire qu'il faut, en fait, vous insister, Naomi Klein, sur le fait que si nous ne prenons pas en charge notre destin commun, d'autres sont déjà en train de le faire.
Well, the center of the book are these three chapters called Magical Thinking.
Effectivement, ces trois chapitres au milieu du livre s'appellent La pensée magique. Et il s'agit de toutes ces histoires que l'on se raconte pour éviter la réalité dont on sait qu'elle existe. Et on sait bien qu'on doit mettre en place des changements profonds. Alors, c'est les fariboles qu'on se raconte. Alors, première idée, le marché va nous sauver, alors qu'on sait bien que ça ne sera pas le cas. Deuxième idée, ce sont les milliardaires qui vont nous sauver, ces personnages, hein, ces capitalistes philanthropes, Richard Branson ou Bill Gates et d'autres. D'ailleurs, je les passe en revue les uns après les autres. Et on voit bien donc qu'il y a une grande disparité entre leur prise de position et ce qu'ils font concrètement, effectivement. Puis enfin, troisième idée, c'est la technologie qui va nous sauver, une espèce de remède miracle. Et on voit que ces idées, eh bien, elles sont diffusées par des gens comme Bill Gates et Richard Branson. Ils ont financé des recherches autour de la géo-ingénierie, à savoir qu'on pourrait trouver une espèce de solution d'ingénierie au niveau planétaire, vaporiser par exemple un nuage de soufre dans la stratosphère pour voiler le soleil qui renverrait en miroir les rayons solaires vers l'espace, ou alors, autre idée géniale, fertiliser l'océan. Ce sont des solutions de science-fiction littéralement. Et j'ai passé un certain temps avec les scientifiques qui travaillent dans le domaine de la géo-ingénierie et qui souhaitent ardemment passer à l'étape suivante. Et ça a été une des recherches les plus affolantes, effrayantes que j'ai faites dans la rédaction de cet ouvrage. Parce que la géo-ingénierie attire, je dirais, des gens très sûrs d'eux, des scientifiques qui ne doutent de rien, des gens d'ailleurs qui, de par le passé, ont travaillé dans des domaines où on fait des erreurs parfois très graves. Il y a des gens qui ont participé au programme de défense Guerre des Étoiles à l'époque, qui a été un échec retentissant aux États-Unis. Maintenant, ces gens sont passés à la géo-ingénierie. On se demande, mais mon Dieu, où ceci peut-il bien nous mener? Ou alors, il y a également le responsable de la technologie de Bill Gates qui a pondu, je dirais, l'un des pires systèmes d'exploitation que l'on ait connu dans l'histoire informatique. Alors, est-ce qu'il est vraiment la personne qui devrait s'occuper de voiler les rayons du soleil? Alors, on nous présente des génies, un tel et un tel, et puis moi, je vois qui c'est. Ça me rappelle un peu quand j'étais en 2007, lorsque j'ai travaillé sur le secteur financier, Alan Greenspan et puis Larry Summers, ce que j'appelle les bulles mentales. À l'époque, vous savez, tout à coup, on est cette espèce de bulle où on va trop gonfler l'ego de telle ou telle personne dans un secteur particulier, et puis ces gens font des erreurs, et ça peut avoir des retentissement planétaire. On l'a vu dans le domaine économique et je crains fort qu'on puisse avoir le même genre d'expérience dans le domaine de l'environnement, des drames au niveau planétaire avec cette géo-ingénierie. Et c'est vraiment incroyable de voir ce que l'on débat le plus sérieusement du monde au Congrès aux États-Unis. Et d'ailleurs, je commence mon ouvrage par une citation par un auteur de science-fiction, Robinson, qui dit dans mes livres de science-fiction, fiction, j'ai imaginé, par exemple, que l'on pouvait endiguer les glaciers au Groenland, et donc il propose toute une série de solutions de science-fiction aux problèmes climatiques qu'il avait envisagés. Et il avait dit, le plus dur d'entre tous, j'avais envisagé de changer les règles du capitalisme, ce qui est assez drôle, parce que ça exprime bien cette règle absolument effrayante, c'est que on en vient à penser qu'il est plus facile de voiler le soleil que de changer le capitalisme.
Ça pourrait être simplement des délires de savants fous avec les cheveux dans tous les sens et en train de délucubrer dans leur coin. Mais derrière toutes ces élucubrations, il y a tout un modèle de société qui est en train de se développer à toute allure. Une société de plus en plus inégalitaire et une société dans laquelle le recours à la répression violente est en train de s'accélérer pour empêcher les réfugiés de venir, les réfugiés climatiques, pour empêcher les pauvres de submerger les contrées des riches.
You know, the funny thing that's happened to me since I published this book.
Ce qui m'est arrivé, c'est assez amusant depuis que j'ai publié ce livre, c'est qu'on me dit que je suis une optimiste.
Et je fais tout pour vous en empêcher.
Wide-eyed.
Une espèce de ravie de la crèche, enfin un peu naïve, optimiste, à tout craint. C'est vraiment pas juste, je trouve. Parce que cet ouvrage, selon moi, il s'inscrit dans le droit fil de ce que j'ai écrit avant, la stratégie du choc. Et cet ouvrage-là, je l'avais écrit après avoir vu le pire dont est possible l'homme quand il vit une crise. Il s'est inspiré de l'ouragan Katrina. J'étais à la Nouvelle-Orléans, il y avait encore des inondations dans cette ville quelques semaines après le drame. J'étais avec un ami, Jérôme Isquet, qui a écrit un ouvrage sur l'affaire Blackwater en se fondant sur son expérience sur place à la Nouvelle-Orléans et aussi en Irak. Donc, nous sommes sur place. Il y a cet ouragan qui est lié manifestement à un problème climatique, puisqu'on sait qu'il y a un réchauffement du Golfe du Mexique, des eaux du Golfe du Mexique. On a cet ouragan qui, malheureusement, ravage des infrastructures assez faibles. Le gouvernement ne fait rien et on a un véritable apartheid climatique. Lorsque l'on est riche, blanc, généralement, on a pu quitter la ville. Vous avez votre compagnie d'assurance qui vous installe dans un hôtel en attendant. Alors que lorsque l'on est noir, eh bien, on se retrouve dans un hangar ou dans un gymnase pendant des semaines, sans eau, sans rien. Et on se retrouve sur Fox News, on se fait traiter d'animal. Il y a des vigiles qui tirent à vue. Après le couvre-feu, il y a des entreprises de sécurité comme Blackwater qui envahissent la ville à ce moment-là. Moi, entre-temps, je suis à Baton Rouge, la capitale de la Nouvelle-Orléans. Tous les lobbyistes du pays sont en train de rappliquer en disant « on va raser les logements sociaux et faire des résidences à la place, on va fermer les écoles publiques, on va multiplier les raffineries de pétrole ». D'ailleurs, je commence la stratégie du choc sur une scène où on voit tous ces gens qui disent que la Nouvelle-Orléans, c'est une page blanche, littéralement. Et il se trouve que j'étais dans un des centres de la Croix-Rouge où les gens étaient accueillis et logés, et je me disais, mais une page blanche, mais comment est-ce qu'on peut... Enfin, c'est une tragédie, c'est tout sauf une page blanche, les gens sont toujours dans leur logement, les gens meurent, donc je ne suis pas optimiste, non. J'ai vu où nous mène cette route et ce chemin, et je suis vraiment convaincue, et c'est d'ailleurs ce dont je parlais quand j'ai écrit la stratégie du choc, que cet avenir est effrayant, épouvantable, et tellement épouvantable qu'on a une responsabilité morale absolue de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour s'engager sur une autre voie. Je ne dis pas que c'est facile et même possible, mais je dis que s'il y a une possibilité, ne serait-ce qu'une, tout un chacun doit essayer de se saisir du volant et d'essayer de donner un coup de volant pour changer de direction. Parce que ce n'est pas le réchauffement simplement qui est en jeu. C'est que on a un système qui met en exergue les pires côtés de l'homme. Comment on peut répondre à ces défis? Et on se connaît bien, on sait où ça peut mener. Et on est tellement certain de ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on voit des films d'Hollywood, Snowpiercer ou que ce soit Hunger Games. On voit des gens qui quittent la Terre pour partir sur une autre planète. On se raconte cette même histoire, celle qu'on a connue dans le cas de l'ouragan Katrina, c'est-à-dire que les riches vont prendre la place et imposer un niveau de brutalité aux autres qui est proprement effrayant.
Vous dites, Naomi Klein, que c'est normal d'avoir peur et que c'est important d'avoir peur aujourd'hui, que la peur, c'est ce qui va nous permettre de courir le plus vite possible pour essayer de fuir ce qui nous attend. Mais la question, c'est vers où courir. Et c'est la partie, effectivement, je comprends pourquoi on vous appelle optimiste, c'est que de fait, vous faites une recension d'un certain nombre de luttes qui ont été efficaces et surtout qui sont une sorte de panneau indicateur qui nous montre comment la vie pourrait être autrement.
Yes, because I think that it's not just fear that will inspire.
Je pense que il n'y a pas que la peur qui peut inspirer l'action. C'est une erreur. Je pense que on a fait pendant longtemps au sein du mouvement climatique agir en se disant que en faisant peur aux gens, on va susciter une action. Alors que quand on fait peur aux gens, eh bien, on panique les gens et puis c'est tout. Pour avoir une action, il faut que l'on sache où on va. Les gens, c'est une espèce de combinaison de deux choses. À la fois, on veut quitter la situation dans laquelle on se trouve. Il faut pouvoir imaginer un ailleurs. Il faut pouvoir être inspiré par cette vision, peut-être. Moi, je ne me considère pas comme une utopiste, mais il y a une certaine valeur à cette façon de penser. Ursula Le Guin a remporté le Booker Prize cette année. Elle a été félicitée et récompensée pour l'ensemble de sa carrière. C'est la première fois qu'un auteur de science-fiction était ainsi récompensé. Et elle a dit qu'elle acceptait ce prix au nom des gens qui, comme elle, font des ouvrages de science-fiction parce qu'elle estime qu'il est très important, particulièrement en ce moment, qu'on ait des gens qui puissent imaginer un autre monde, une autre façon de vivre, en raison de la crise, justement, que nous vivons. Et donc, dans cet ouvrage, eh bien, moi, j'essaye de tricoter les actions, le point de vue de ces différents groupes qui ont chacun leur raison propre de vouloir changer ce système économique, comment faire en sorte qu'ils puissent travailler ensemble pour faire avancer les choses, pour que l'on conçoive ensemble ce nouveau monde. Or, on sait qu'il faut réduire les émissions de 10% par an dans un tel monde. Ça, c'est indiscutable. Et il faut que cette réduction des émissions, elle commence maintenant. Maintenant, dans ce contexte, on peut tout à fait mettre la justice au centre de tout. On peut faire en sorte que cette transition ne crée pas simplement des emplois, mais des emplois qui sont bien payés, qui sont respectueux de la personne, et pas simplement des emplois, si vous voulez, verts au sens où il s'agirait d'avoir des panneaux solaires. Mais on peut également choisir de valoriser des parties de l'économie comme les soins apportés à la personne qui sont peu consommateurs de carbone. Or, ce sont des emplois qui aujourd'hui sont très mal payés, voire pas payés du tout. Donc, on pourrait peut-être envisager un revenu de base qui n'obligerait pas les gens à accepter des emplois dans les industries, mais de pouvoir se tourner vers ces fameux emplois dont je parlais, qui sont des soins à la personne, par exemple. On pourrait aussi imaginer la manière de reprendre possession de la gestion de notre énergie avec un contrôle démocratique de la population, de ces réseaux également, utilisation des profits, des bénéfices pour construire, par exemple, des écoles. Et ça, ce n'est pas inévitable. Simplement, il faut le concevoir, il faut l'exiger, mais je pense qu'on a les infrastructures pour ce faire. Et puis, il y a une vraie urgence, pas simplement une urgence climatique, encore qu'elle soit là, mais il y a une urgence qui est liée à la crise économique également. Qui ravage la planète depuis 2007, notamment l'Europe. Cela fait 7 ans. On sait entre-temps que l'austérité a été un échec en Europe. C'est là, je crois, une vraie opportunité pour les mouvements anti-austérité, justement, qui regagnent du terrain dans des pays comme la Grèce, l'Espagne, mais sur tout le continent, je dirais, européen, qui peuvent éventuellement se rapprocher des étudiants, des féministes, scientifiques, des écologistes, pour travailler ensemble sur une transition qui permette de s'éloigner des combustibles fossiles et qui soit fondée également sur une vraie justice.
Il y a au cœur de votre livre l'exemple, qui n'est pas de la science-fiction, qui est bien réel, des modes de pensée des autochtones, les peuples premiers. Vous citez surtout ceux d'Amérique du Nord, puisque c'est de là que vous venez, Naomi Klein. On connaît peut-être mieux en France tous les exemples d'Amérique latine, le buen vivir. Ce sont des exemples profondément importants aujourd'hui, me semble-t-il, d'autant que vous le dites, ce qu'il faut, c'est aussi arriver à changer notre manière de voir.
Effectivement, c'est une des choses les plus intéressantes qu'on voit dans cette résistance croissante à l'industrie de l'extraction, parce que les gisements se trouvent sous des terres indigènes, que ce soit en Équateur ou dans l'Alberta, dans le cas des sables bitumineux. En fait, si on veut faire de l'extraction, il faut travailler avec les peuples autochtones, il faut reconnaître leurs droits fonciers. Il faut aussi comprendre que la protection de ces droits fonciers relève de la protection de notre planète, d'où un processus vraiment très intéressant au Canada, dans mon pays, puisque vous savez que chez nous au Canada, les gouvernements ont toujours été très forts pour présenter les droits fonciers des autochtones comme un véritable risque ou un danger pour ceux qui ne sont pas les peuples autochtones dans le pays. Or, nous avons un gouvernement très à droite actuellement, qui est un criminel absolu au plan climatique. Et ce que bien des Canadiens non autochtones ont compris, c'est que ces droits fonciers des autochtones sont la seule protection juridique contre ce gouvernement. D'ailleurs, notre Cour suprême a plusieurs reprises à réaffirmer les droits fonciers des autochtones. Et grâce à ces décisions de justice, eh bien, ce droit est renforcé. Ce sont, par exemple, les autochtones qui ont le plus de chances de mettre un frein à la construction de nouveaux gazoducs ou d'ouverture de nouvelles mines. Et d'ailleurs, c'est un argument qui préoccupe les investisseurs potentiels, parce que ça entraîne une certaine incertitude quant aux possibilités d'investissement. Mais le fait de travailler en collaboration de plus en plus étroite avec ces gens, ça exposer les non-autochtones, dont moi d'ailleurs, nous avons été exposés, mis en présence d'une vision du monde différente, différente de celle de l'extractivisme, cette idée qui est qu'on a le droit d'utiliser la planète comme si c'était une machine, une espèce de distributeur automatique. Et d'ailleurs, dans mon livre, je cite un auteur qui s'appelle Eliane Simpson, très intéressante, c'est une théoricienne, une enseignante, qui a des idées passionnantes et qui dit que la vision du monde de la culture Anishinaabe, c'est que on doit protéger, régénérer la vie. C'est une espèce de renaissance continue. C'est une phrase qu'elle emploie. Et en fait, tout ceci va à l'encontre absolument de l'extractivisme. Le contraire de prendre, c'est quoi ? Eh bien, c'est permettre la régénération d'un système et la renaissance et la reconstitution. Alors, si on met ces principes au centre même de l'organisation de notre économie, de notre société, ils auraient une toute autre allure, ça, sans aucun doute. Et ça, c'est vraiment un des très grands avantages de ces coalitions, c'est ce grand échange d'idées qui a été possible.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci Naomi Klein. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Tout peut changer, changement climatique et capitalisme, est publié aux éditions Actes Sud. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, c'est Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Et notre site internet, c'est franceculture.fr, avec notre revue de web hebdomadaire. Terre à Terre vous est proposée par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Chenepin, Anne Gouzon, traduction Hélène Joguet-Lecointre, mixage Delphine Baudet, réalisation David Jacuboviez. Bonne semaine à tous.